C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Vers l'infini et au-delà.
Merci Buzz, vers l'infini et au-delà. Attention, décollage, bienvenue sur la Lune, ou plutôt welcome to the Moon. J'espère que ce voyage dans l'espace d'ailleurs s'est bien passé. Voici le troisième épisode de cette trilogie ludique qui a instauré le Flip and Write. C'est comme le Roll and Write, mais à la place des dés, on utilise des cartes. Alors après Welcome Las Vegas, il fallait partir plus loin. Et à part la Lune, je ne vois pas où ils auraient pu partir. Le chien de Blue Cocker a mis sa combinaison et direction l'espace. Welcome to the Moon, un jeu de Benoît Turpin et Alexis Allard, avec des illustrations d'Anne Hetzik. Alors dans Welcome to the Moon, vous allez partir en mission sur la Lune. Et vous en avez de la chance car même Thomas Pesquet n'a pas encore posé un pied dessus. Dans Welcome, on avait l'habitude d'avoir un bloc de feuilles. Là, fini les crayons à papier, vous avez des fiches plastifiées. Oui, j'ai dit « dès » car il y a plusieurs étapes avant d'arriver là-haut. Vous aurez un mode campagne et un mode aventure et la boîte est bien remplie, croyez-moi. Alors partir sur la Lune, c'est une aventure. Ce mode vous permet de faire les 8 fiches dans l'ordre que vous voulez, à l'inverse du mode campagne où il faudra suivre l'ordre indiqué. Mais si vous faites la campagne, vous allez y aller hein, progressivement. Le gros plus hein, de ce Welcome, c'est que chaque fiche propose un flip and write différent. Et ça, franchement, c'est top. On ne fait jamais la même chose. Alors, je vais pas vous dévoiler hein, toutes les aventures, mais vous parler de la première fiche, Recto Verso. Alors avant de s'envoler, on va faire un petit rappel de la technique. Je vous l'ai dit, ce n'est plus des maisons ni des casinos, on part sur la Lune, au programme non de fusée, voie lactée, surface lunaire, vaisseau, bref, un voyage spatial. Mais la mécanique reste la même, on retourne toujours une carte numéro et une carte action. On est obligé de choisir l'un des trois numéros que l'on marque dans une case, mais on n'est pas forcément obligé d'utiliser l'une des cartes action. Et notamment dans la première aventure de la fusée, où on ne les utilise pas du tout, mais on va y revenir. Et comme dans les premiers Welcome, il y a trois objectifs à faire. Celui qui finit le premier, un objectif a plus de points que les autres, car l'objectif a été accompli. Trois conditions de fin possibles, soit on a validé les trois objectifs, soit on a rempli toutes les cases, soit vous avez fait trop d'erreurs système. En gros, vous ne pouvez pas placer de chiffres dans les cases. Dans Welcome to the Moon, il faut toujours placer les chiffres dans l'ordre croissant. Ça ne change pas non plus. Parmi les actions possibles, l'action robot va permettre de connecter ou construire. Dans l'aventure 2, le voyage, les robots serviront à connecter les stations satellites qui produisent des plantes à la ligne du voyage entre la Terre et la Lune. Autre action, l'eau, où les plantes vous permettront de collecter des ressources qui vous donnent des points en plus. L'action énergie permet d'améliorer les actions. Dans l'aventure 2 du voyage, vous pourrez grâce aux énergies faire des tronçons à votre périple. Les deux dernières actions possibles sont les actions astronautes qui permettent de changer la valeur de plus 1 ou plus 2 ou moins 1 ou moins 2. En gros, vous avez le chiffre 11, vous pouvez utiliser cette action pour prendre le 9, le 10, le 12 ou le 13. Et pour finir, avec l'action planning, on peut utiliser une croix pour remplacer un chiffre. Et ça aussi, c'est très pratique. Welcome n'avait pas été nommé à l'As d'Or lors de sa sortie. Bizarre quand même, le fait de nous envoyer sur la Lune pourrait lui permettre peut-être de la décrocher. La saga en tout cas est terminée, on va demander d'ailleurs à Benoît s'il a d'autres idées, mais bon, où pourrait-il bien nous emmener après l'espace ? Welcome to the Moon est varié grâce à ses 8 aventures, on a envie de toutes les faire et d'y retourner. Un jeu aussi avec de l'interaction, ce qui est assez rare dans ce genre de jeu à cocher. C'est le cas lors du décollage où la première aventure nous laisse les actions de côté pour nous familiariser avec le jeu, mais nous offre de l'interaction en mettant des erreurs système aux autres. On peut le dire, Welcome to the Moon est un grand jeu, avec un mode solo et un mode campagne, avec son histoire et ses surprises que je vous laisserai découvrir, mais je peux vous dire qu'il y aura un changement de règles. Voilà, on en parle d'ici quelques minutes avec Benoît Turpin, l'auteur de Welcome to the Moon.
C'est ludique, l'invité de la semaine.
Et beaucoup d'invités cette semaine, mais mon premier invité, c'est Benoît Turpin, l'auteur de Welcome to the Moon. Bonjour Benoît.
Bonjour Mathieu.
Alors la dernière fois que tu étais sur l'antenne de Millennium, on avait parlé de Welcome to Las Vegas qui venait de sortir et tu avais dit déjà que le prochain épisode serait sur la Lune. Ça y est, on y est. Combien de temps ça t'a pris ?
Eh bien à peu près tout le temps depuis la dernière interview, c'est-à-dire presque 2 ans. C'était un gros projet, beaucoup plus gros que ce qu'on pensait à la sortie de Las Vegas.
Ouais. Alors justement, tu t'es entouré d'Alexis Allard qui avait déjà fait la version solo de Vegas. Pourquoi avoir travaillé en collaboration sur celui-là ?
Alors déjà parce que j'aime beaucoup Alexis.
Ouais.
Parce que bah, la logique était qu'il reprenne le mode solo de Welcome to the Moon déjà. Mm-hmm. Ah, donc j'avais déjà prévu de travailler avec lui. Et en fait, dès qu'on a commencé à travailler, on s'est vite rendu compte que le projet prenait des proportions un peu folles. Et voilà, au bout de quelques mois, je lui ai proposé de venir à plein de temps dessus parce que je me sentais pas capable d'aller au bout tout seul. Ça faisait vraiment trop de travail, et comme il a toujours des super idées, il a des compétences que moi j'ai pas, ça me semblait être parfait de s'y mettre à deux, vraiment.
Toi, tu travailles hein, chez Blue Cocker depuis tout ce temps, t'es sur Welcome to the Moon?
Alors je fais plein de choses chez Blue Cocker, je fais pas que du développement, mais dans la partie développement, j'ai bossé en effet malheureusement principalement que sur Welcome to the Moon. Je travaille aussi sur un jeu d'enquête de Pierre Voix et David Simian qu'on prépare pour l'an prochain.
D'accord.
Et qui est un jeu un peu différent parce que c'est un jeu d'enquête avec des photos, des vraies photos. Donc moi j'ai organisé des shootings photos avec une photo
D'accord.
des maquilleuses. Donc c'était du game design mais un peu différent.
Quand tu as une idée justement pour Welcome par exemple, tu la notes quelque part, tu la fais tester tout de suite, comment ça se passe?
Alors pour Welcome, l'avantage c'est que c'est un jeu à cocher et donc ça va très vite. Une idée, je prends 3 minutes et je la mets en forme sur mes templates que j'ai déjà de Welcome et je peux la tester quasiment immédiatement. C'est l'avantage d'avoir joué avec ce jeu, de l'avoir trituré pendant des années. C'est que maintenant, je suis capable de le tester immédiatement, presque sans rien matériellement.
Alors, Welcome to the Moon, niveau de difficulté, tu le situes où par rapport à Welcome et par rapport à Vegas?
Alors, la première feuille de Welcome to the Moon, elle est avant Welcome.
Ouais.
Elle est moins difficile. Ça permet vraiment de rentrer assez facilement dans le jeu. Et puis, ça monte progressivement. Et les feuilles les plus dures sur les 8 qu'il y a, qui sont probablement la 6 et la 8, elles sont à peu près au milieu entre Welcome et Vegas.
Justement, Welcome Las Vegas n'a pas eu autant de succès, et t'es déçu? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi?
Alors, on savait qu'il n'y aurait pas autant de succès parce que c'était une version joueuse pour joueurs de Welcome. Donc on savait que ça n'allait pas avoir un retentissement aussi important. J'étais un peu déçu parce que ça s'est surtout vite épuisé. Disons que les gens qui ont joué à Welcome Las Vegas et qui savaient qu'ils s'attendaient à un jeu expert, ils ont été contents.
Ouais.
Mais en fait, on n'a jamais réussi à communiquer correctement le fait pour les autres que ce jeu-là n'était pas pour eux.
Ah oui,
donc
d'accord.
Ça a créé pas mal de déceptions chez des gens qui ont acheté le jeu et qui pensaient avoir juste un autre Welcome et qui se sont retrouvés avec un jeu beaucoup plus expert et ils s'y attendaient pas. Et je pense que là on s'est raté en termes de communication sur ça, où on a surestimé notre capacité à communiquer, à toucher les gens avec notre discours.
Ouais, et puis peut-être que aussi les gens ont acheté Vegas, se sont dit tiens c'est un nouveau Welcome, on parle de Welcome, on va plutôt prendre celui-là. Pourtant c'est bien indiqué hein, de jouer à Welcome avant de jouer à Vegas. Hein.
Et ouais, mais pas assez bien. Donc bon, c'est un peu décevant que le message soit pas correctement passé. Après, moi, je suis très content du jeu et je suis content de l'avoir fait. D'avoir fait quelque chose de différent avec Welcome, c'est ce qui m'intéressait.
Est-ce que l'idée de Welcome to the Moon est venue à force de faire plein d'extensions pour Welcome? D'ailleurs, combien il y a d'extensions au total de Welcome?
Alors, en extension, on en a 7 finalement. Alors, il y en a 3 qui sont, enfin, 6 qui sont vendus par paire.
Ouais.
Et puis, on a fait une extension crossover avec le jeu La Petite Mort.
Oui.
Et en effet, c'est tout à fait venu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini toutes les extensions, on trouvait que bah, déjà ça faisait beaucoup, les 6 initiales. Mais j'avais de plus en plus d'idées. J'ai de plus en plus envie. Et donc, quand j'ai revu Alain pour faire la vidéo de Welcome to Las Vegas, je lui ai proposé autre chose qui modifiait un petit peu plus encore que les extensions habituelles. Et c'est là où Alain a dit, on va pas les faire en extension, mais on va plutôt faire une nouvelle boîte de Welcome thématisée dans l'espace. Alors, moi, j'avais proposé le thème.
Ouais.
Et faire les feuilles à l'intérieur de cette boîte en standalone pour que les cartes soit thématisé dans ce nouvel univers.
Ouais.
Et à partir de là, on est parti un petit peu loin avec Alexis.
Et alors, combien de feuilles tu t'es dit au début que tu allais faire?
Alors, au début, j'en ai présenté 2 à Alain en lui disant que j'aimerais bien en faire 4.
D'accord.
Et en fait, assez rapidement, on avait eu envie de raconter une histoire de la conquête de la Lune. Et on s'est rendu compte que 4, bah, c'était un peu court pour raconter une histoire. Donc, bah, j'en ai fait 6. Et au bout de 6, bah, on trouvait encore que ça manquait un petit peu de rebondissement. Et on s'est arrêté à 8 parce qu'on s'est dit que c'était pas raisonnable d'aller plus loin.
L'idée, c'était vraiment de raconter une histoire, hein, du décollage, notamment le voyage et ainsi de suite, quoi.
Ouais. Dès le début, on voulait que chaque feuille raconte une partie du voyage et que mécaniquement, ça soit adapté à la feuille. C'est-à-dire que chaque modification mécanique se ressemble thématiquement et inversement dans l'expérience. Que quand on va chercher des ressources sur la Lune, on a vraiment l'impression de faire une mécanique, ouais, de récolte de ressources. Et pareil pour les autres feuilles.
Quand justement tu as donc 8 feuilles, il y en a bien une que c'est ta préférée, non?
Ouais, je pense que c'est la 7.
La 7.
C'est une mécanique où on a une contrainte d'accès aux endroits où on peut numéroter. Mm. Et cette mécanique-là, elle me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle est très frustrante, mais dans un bon sens. Voilà. Elle me plaît bien.
Alors moi, j'aime beaucoup la 2 parce que c'est totalement différent. D'ailleurs, quand on retourne, parce que c'est du recto verso pour la 1 et la 2, quand on retourne, on se dit, mais c'est du welcome ça ou quoi?
Ouais. Alors ça, c'est une idée d'Alexis.
D'accord.
Qui était frustré de... La 2, elle vient de la mécanique du rond-point, qui est une mécanique optionnelle dans le premier Welcome.
Ouais.
Et qui, selon nous, marche pas aussi bien qu'elle devrait, parce que dans le premier Welcome, bah, elle est arrivée à la fin. Et elle n'est pas exploitée totalement. Parce que la structure de Welcome avec 3 rues, bah, ça marche, mais ça marche pas aussi bien que ça pourrait marcher.
Ouais.
Et du coup, Alexis a proposé d'aller au bout du concept de ce rond-point. Pour faire une nouvelle feuille qui donne une expérience assez différente.
Ouais. Ah ouais, et puis c'est dès la deuxième feuille finalement, donc c'est ça qui est surprenant.
Ouais. Ouais, bah on voulait vraiment que les joueurs aient, quand ils découvrent une nouvelle feuille, fassent « Ah, ok, je vais jouer à Welcome, mais alors ça n'a rien à voir.
» Il y a des jeux qui t'ont inspiré pour les feuilles. Alors on pense un petit peu, on pense à la 3, notamment peut-être du Lucky Numbers.
Alors, pas du tout.
D'accord.
Je trouve que la 3, c'était la première feuille qu'on a développée.
D'accord.
Donc en début 2019. Et c'était pas sorti le King Number, je savais pas que ça existait. Donc c'est un pur hasard que ça ressemble à ce point-là. Même si le King Number est un peu plus simple,
oui,
dans l'exécution. mais c'est vrai que la sensation est la même. On m'a aussi parlé de l'influence de Tréfuté dans la 1.
Oui,
alors,
ouais,
je connais Tréfuté, donc peut-être que c'est une influence inconsciente, mais j'ai pas eu l'impression. Nous, on s'est vraiment dit, j'ai envie de faire une feuille sur la construction de la fusée, j'ai envie de faire une feuille sur le voyage, j'ai envie de faire une feuille sur la recherche de ressources et sur la construction de la ville. Enfin, on est vraiment parti du thème et on n'est pas du tout parti de jeux existants. On n'a pas eu envie de mettre un jeu existant dans Welcome.
D'ailleurs, dans la 3, on a aussi l'effet ligne et colonne, un peu comme dans Vegas, avec même aussi le trajet là, pour relier les paraboles qui font penser un petit peu à la limousine.
Oui, tout à fait. C'est vrai que la 3, elle fait penser à une version un peu simplifiée de Vegas. C'est peut-être pour ça qu'elle est née, celle-là.
Alors, on va pas faire toutes les feuilles, parce que sinon, on y est pour un petit moment. Comment est arrivée la campagne? Parce que 8 feuilles, c'était déjà pas mal, non?
Ouais, alors ça, c'est une interrogation qu'on avait avec Alexis. Au moment où on a fini les 8 feuilles, on s'est posé la question, comment on va l'introduire aux joueurs? Comment on va leur expliquer le cheminement narratif? Et on disait, bah, c'est dommage... De juste avoir une phrase d'introduction à chaque début de règle.
Ouais.
On voulait aller un peu plus loin. Et Alexis a proposé, il me l'a dit plus tard en espérant que je lui dise non, qu'on fasse comme un livre dont on est le héros pour pouvoir raconter cette histoire.
Ouais.
Et moi, j'ai adoré l'idée. À partir du moment où il a donné l'idée, on s'est mis à imaginer plein de choses pour aller plus loin dans chacune des feuilles, pour pouvoir jouer avec, modifier les règles, rajouter des choses, en enlever. Et à partir de là, c'était sur la fin. Ça a été genre nos 9 derniers mois de développement. Mais on a fait que ça. On a fait que de la réflexion de comment créer l'arbre narratif, comment on enchaîne les différentes modifications, comment on les explique thématiquement et comment on rédige cette longue histoire finalement, parce que le carnet de campagne, bah, il fait quand même en caractère à peu près autant qu'un livre dont on est le héros, comme qu'on était des jeunes, genre des loups solitaires, comme ça, donc c'était assez long à rédiger.
Ouais, et puis on va pas tout dévoiler, mais les règles changent aussi, enfin donc... C'est vrai que on a le temps de faire ce welcome en tout cas. Il y a une chose, mais c'est pas du tout le même travail à faire un flip and write que à faire une aventure narrative.
Alors c'est pas du tout la même expérience, et autant on se sentait totalement à l'aise dans le développement des 8 feuilles parce que on était vraiment dans notre univers mécanique de welcome et on avait l'habitude. Autant quand on s'est lancé dans l'écriture de cette aventure narrative, on s'est vite rendu compte que là, on était à des novices et qu'il a fallu qu'on passe du temps et qu'on réfléchisse beaucoup et qu'on change beaucoup de choses au fil des tests parce que là, par contre, on découvrait totalement cette partie-là de design et c'était assez excitant, mais intense en termes de travail.
Il y a aussi un travail, un super boulot au niveau des illustrations. C'est pas évident d'illustrer un flip and write.
Non, j'ai mis beaucoup de temps à l'illustrer, moi. C'était affreux. Non, ouais, c'est Anna Hitzek, bien sûr, qui a illustré le jeu. Et ça a été beaucoup de travail pour elle. Et c'est toujours un peu frustrant de travailler sur Welcome pour Anne, parce que les contraintes qu'on lui impose sur les feuilles, elles sont énormes. Et on lui laisse, malheureusement pour elle, assez peu de marge de manœuvre pour pouvoir s'exprimer artistiquement. Dans la 6, par exemple, bah, y a peut-être une zone de 2 cm sur 2 où il n'y a pas de contrainte, où elle a pu faire un truc à elle. Ouais. Alors que tout le reste, c'est très contraint. Alors elle arrive à faire que chaque feuille soit visuellement différente, à la fois claire et thématique. Donc c'est un gros boulot, mais c'est un gros boulot de contrainte pour elle. Ouais.
Bon, là, du coup, on est sur des genres de Velleda. C'était pas possible les feuilles papier?
Alors c'est pas possible, c'était possible, on s'est posé la question, on a fait faire des devis. Ce qui était pas possible, ça aurait pu rentrer dans la boîte, ça faisait 400 feuilles recto verso.
Ouais.
Mais ce qui nous posait problème, c'est pour le mode campagne.
Ah bah oui.
Parce que avec le mode campagne, on a besoin de ce principe de Velleda.
Ouais.
Et là on trouvait pas de solution différente. Donc comme mécaniquement, de toute façon, on ne voulait pas faire une boîte qui se joue de 1 à 100 comme Welcome.
Oui,
parce que,
alors on n'y joue jamais de 1 à 100 de toute façon.
Oui, c'était bien pour l'argument marketing.
Est-ce que, bah donc, on a 3 Welcome maintenant, est-ce que c'est le dernier Welcome? Est-ce qu'il y a des extensions déjà dans la tête ou non, là, plus de Welcome là?
Alors, on a promis à Anne, juré, craché, qu'il n'y aurait pas d'autres welcome, pour pas la torturer encore.
D'accord.
Là, l'idée, c'est qu'on est vraiment arrivé au bout de ce qu'on voulait faire sur welcome. Bien sûr, moi, j'ai toujours des idées, parce que j'aime bien jouer dans le bac à sable, mais j'ai pas envie de m'y mettre, parce que j'ai aussi envie de faire d'autres choses. J'ai envie de créer d'autres jeux, ouais. Et pas de rester que dans cet univers welcome. Là, je pense qu'on a proposé... une variété assez importante d'expériences ludiques à partir de la base de Welcome. Et enfin, les gens vont finir par se lasser à un moment donné et je préfère arrêter quand les gens ne sont pas encore lassés.
Ouais, donc les 3 Welcome vont cohabiter ensemble.
Bah ça, c'est les ventes qui nous le diront, mais ouais. J'espère, oui.
Alors, tu bosses chez Blue Cocker, on l'a dit tout à l'heure, mais Alain ne t'interdit pas de sortir des jeux ailleurs. Tu lui proposes à chaque fois tes jeux en priorité?
Ouais, alors c'est ce que je faisais avant de toute manière, avant de travailler pour lui. Je lui montrais en général mes jeux en premier parce qu'il s'entend bien et que je voulais avoir son avis, même si c'était pas pour lui. Et du coup, là, la règle qu'on s'est mise, c'est quand j'ai un nouveau proto, je lui montre, il me donne son avis. En général, il me dit que c'est pas pour lui parce qu'il a des idées très précises sur ce qu'il veut.
Ouais.
Et du coup, après, je peux le présenter à d'autres éditeurs. Donc ça, je ne suis pas à pied et poing liés avec Blue Cocker.
Alors vendredi, j'ai présenté Mes Amis Sont. C'est un jeu d'ambiance. Ça s'est sorti donc chez Le Droit de Perdre. Comment est venue cette idée? D'ailleurs, je crois que le nom initial, c'était Pourquoi mon chat?
Ouais, alors On avait un titre initial un peu plus trash et un peu plus vulgaire que je ne prononcerai pas à l'antenne. Mais ouais, c'est venu... je faisais une partie de casting avec des amis, un casting qui est de Romaric Gallonier. Et à la fin de la partie de casting qu'ils avaient adoré, Doria m'a dit, copine, ça serait cool de faire un jeu où on parle comme casting, où on dit des énormités, mais plutôt avec Google.
Ouais.
Et je trouvais que l'idée était cool. Et on a passé beaucoup, enfin, j'ai passé beaucoup de temps d'abord à essayer de développer un truc sur cette idée d'auto-complétion de Google qui te finit tes phrases en fonction de ce qu'on cherchait des gens. Et j'ai passé pas mal de temps, et au bout d'un moment, ça m'a semblé assez naturel de demander à Romaric de me filer un coup de main.
Mm-hmm.
Et c'est un jeu qui est très vieux. L'idée initiale, elle date de 2015, et on a proposé une version qui nous semblait correcte à Cannes 2016 à François du Droit de Perle,
ouais,
qui a beaucoup aimé. La vie s'est passée, le projet a été mis en pause pendant des années, et il est revenu vers nous en 2019, parce que là, il avait du temps, il était motivé, et donc là, on s'est vraiment remis à bosser, à finaliser la mécanique pour que ça soit le plus accessible possible et que ce qu'on cherchait à faire, surtout mécaniquement, parce que c'est un jeu d'ambiance assez simple, c'était,
ouais,
qu'il y ait une forte animation autour de la table, qu'il n'y ait pas de temps mort, et que les gens proposent des choses à la volée et se sentent libres de s'exprimer, et qu'il n'y ait pas un tour à respecter.
Oui, on n'est pas comme dans Une Famille en Or, quoi, parce que c'est un peu le principe d'Une Famille en Or, mais par contre, il faut donner les réponses, voilà, toutes les deux équipes peuvent donner les réponses en même temps.
Ouais, mais on était parti initialement sur un truc un peu plus structuré comme Une Famille en Or, même si ça n'avait pas du tout traversé pendant le développement du jeu que ça ressemblait à ça. Mais on avait cette idée structurée, on se rendait compte dans les tests que ça manquait d'entrain, en fait, ça manquait d'ambiance, et donc on a cassé la structure pour permettre aux gens de créer cette ambiance,
ouais,
plus facilement.
Tu fais beaucoup de jeux à deux. Si tu devais choisir un auteur étranger, ça serait qui et pourquoi ?
Alors, c'est une bonne question. Ça serait probablement Phil Walker Harting.
D'accord.
C'est l'auteur de Sushigo, de Imhotep.
Explorer, ce qui vient de sortir aussi.
De Explorer, qui vient de sortir, tout à fait. Et c'est un auteur qui arrive à prendre une idée, une mécanique, et en faire quelque chose d'ultra épuré, de très simple, mais à la fois de très très excitant intellectuellement. Et je trouve qu'il est très fort à ça, et je suis très jaloux. Et j'aimerais bien être capable d'arriver à épurer des mécaniques aussi facilement que lui. Donc j'aimerais bien bosser avec lui.
Pour finir, on va parler de tes prochaines sorties.
Ouais. J'ai un autre jeu à cocher qui sort le mois prochain.
Ouais.
C'est mon premier Roll and Write, parce que cette fois-ci, on m'a laissé mettre des dés dedans.
Ouais.
Ça s'appelle Number Drop, et je fais ça avec Florian Siriex. Ça sort chez Debac le jeu. Et c'est un Tetris en jeu à cocher qui vient de ma frustration d'avoir joué aux autres Tetris en jeu à cocher qui m'ont pas plu.
D'accord.
Et j'ai eu envie d'en faire un qui me plaisait, en fait. Simplement.
Ça marche. On en parlera aussi avec Florian, puisqu'il sera mon invité jeudi.
Ah, mais il se plaindra de moi. Alors je vais limiter les moqueries de Florian.
D'accord.
Et sinon, ça, c'est en fin d'année. En début d'année prochaine, je vais avoir la première extension de Prehistories que j'ai fait avec Alex Henry chez Flying Games, qui est une extension un peu narrative aussi, parce que c'est à la mode et ça nous a plu. Donc ça devrait sortir pour Cannes. Et j'ai un autre jeu d'ambiance qui va s'appeler Le Jeu du Doigt, qui est un jeu d'ambiance minimaliste qui se joue de 2 à 5 avec Florian Siriex à nouveau.
Et avec un doigt.
Chez les Lumberjacks.
D'accord.
Donc ça sort à Cannes. On va essayer de faire une grosse sortie.
À Cannes.
On va inonder le festival avec, parce que c'est un petit jeu qui peut jouer partout, n'importe comment. Et ensuite, je vais avoir mon premier jeu enfant, qui va s'appeler La Planche des Pirates,
ouais,
qui est petits jeux de prise de risque avec des éléphants, des petites figurines d'éléphants, chez Flying Games aussi avec Florian, qui va sortir normalement pour Paris Ludique. Et dans ce qui est à peu près sûr de sortir, j'ai mon dernier projet, c'est Myriad, qui est un casse-tête narratif.
Ouais.
Solo, c'est un jeu solo avec une sorte de livret d'enquête pour avancer dans les différents casse-têtes et qui va sortir chez Ghost Dog Games, qui est un nouvel éditeur et qui est avec Romaric Gallounier.
Très bien.
Parce que je fais que des jeux avec des co-auteurs maintenant, c'est tellement mieux.
Bah, merci beaucoup Benoît d'avoir été sur Millennium. On aura l'occasion de se reparler et de se voir à Cannes.
Et bah, avec plaisir.
Merci et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.